Radio Kapi.
Le gouvernement de la RDC invité à élaborer la stratégie de transition et de sortie progressive de la MONUSCO. La demande est du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi lors du Conseil des ministres qu'il a présidé lui-même le vendredi. C'est une demande faisant suite à celle du Conseil de sécurité de l'ONU qui pourrait renouveler en décembre prochain le mandat de la MONUSCO. La réponse judiciaire et extrajudiciaire que la hiérarchie militaire a donnée après les crimes commis dans la région du Kasaï en 2016-2017 n'est pas efficace car n'ayant produit aucun résultat concret, le directeur de la Société congolaise pour l'état de droit qui le dit estime que la hiérarchie militaire n'a pas voulu envoyer devant la justice les militaires cités dans ces exactions commises au Kasaï. 13 personnalités politiques et de la société civile congolaise envisagent un consensus national sur les questions électorales en RDC. Cela au regard de la crise politique actuelle entre les alliés au pouvoir. Nous en parlons dans ce journal avec Deli Sesanga, une de ces personnalités. Il est l'invité de cette édition. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bonjour et bienvenue à ce journal. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, invite le gouvernement à s'impliquer davantage dans l'élaboration de la stratégie de transition et de sortie progressive de la MONUSCO, la priorité devant être accordée aux régions dans lesquelles la MONUSCO entamera sa transition et son retrait, à savoir le Grand Kasaï, rapporte le porte-parole du gouvernement, le ministre Julinu Makelele. Il faisait ainsi le compte-rendu du Conseil des ministres du vendredi 17 juillet, présidé par Félix-Antoine Tshisekedi, chef de l'État. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a demandé que le gouvernement de la RDC et la MONUSCO s'engagent dans un dialogue approfondi sur l'élaboration d'une stratégie commune de transition qui sera présentée au siège des Nations Unies en septembre prochain pour être proposée au Conseil de sécurité en octobre avant le prochain renouvellement du mandat de la MONUSCO en décembre 2020. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Le ministre de la Communication et Médias rappelle que la résolution 2502 du Conseil de sécurité des Nations Unies du 19 décembre 2019 a renouvelé le mandat de la MONUSCO pour un an et a chargé la mission de contribuer à la protection des civils et à l'appui à la stabilisation et au renforcement des institutions de l'État ainsi qu'aux réformes clés en matière de gouvernance et de sécurité en RDC. La résolution a mis l'accent sur la nécessité d'une transition progressive et d'une sortie responsable de la MONUSCO en insistant sur le fait qu'une telle transition devrait se faire par un transfert progressif des tâches de la mission onusienne au gouvernement de la RDC en coordination avec l'équipe pays des Nations Unies et les autres parties prenantes et partenaires concernés, note le compte-rendu du Conseil des ministres. Le Conseil a par ailleurs demandé que cette transition et cette sortie soient menées de manière à faciliter les progrès vers une paix et un développement durable et inclusif, à s'attaquer aux causes profondes des conflits et à réduire la menace que représentent les groupes armés nationaux et étrangers à un niveau susceptible d'être géré par les forces de sécurité de la RDC en mettant particulièrement l'accent sur la réduction de cette menace pour les civils, rappelle Julinu Makelele.
On est touri. 4 villages de secteur de Walendu, Djati, Pichi et de la chefferie de Baema Baguru ont été la cible d'attaques des miliciens de la Codeco vendredi en territoire de Djougou. Le bilan avancé par des sources sécuritaires est de 5 personnes tuées parmi les victimes, un orpailleur et ses deux fils qui sont tombés dans l'embuscade de ces hommes armés pendant qu'ils se rendaient dans une carrière minière. 7 femmes ont également été kidnappées et violées avant d'être relâchées par ces inciviques. Isaac Remoyope nous explique.
La première attaque de ce groupe armé Codeco s'est déroulée au village Wakoko en secteur de Walendu Dzatsi. 4 miliciens munis de fusils ont investi cette localité vers 3h du matin, attirant des coups de feu. Selon des sources locales, des personnes qui cherchaient à se sauver ont attrapé des balles et sont mortes. Ces assaillants ont également emporté des chèvres et pillé d'autres biens de la population. La deuxième attaque s'est produite au village Limani, proche de Nizi en chefferie de Baema Baguru. Ces hommes armés ont ouvert le feu sur 3 personnes, membres d'une même famille qui s'est rendait dans une carrière minière. Ces meurtres ont suscité une vive tension dans les milieux où des habitants se disent lassés des exactions de la milice Codeco. Au village d'Ukareba, dans le secteur de Walindupiti, ces miliciens ont pris en otage 7 femmes qui ont été violées puis relâchées. Le dernier cas d'incursion est signalé au village de Tsotso où ces miliciens ont tiré plusieurs coups de feu sans faire des victimes. Toutes ces attaques ont entraîné les déplacements des habitants qui demandent au gouvernement de restaurer la paix en territoire de Djougou. Bounia Isaac Remoyope, Radio Okapi.
Les policiers internés au centre d'instruction de la Kasapa à Lubumbashi crient à l'abandon. Cela fait 3 mois depuis qu'ils sont dans ce centre en attente de leur voyage vers le centre de recyclage de Kasangoulou. Ils disent être abandonnés dans ce centre de la Kasapa, impayés. Et les répercussions de cet impayement se font déjà sentir dans leur famille, car dépourvus de tout, ces policiers viennent de Kombove, de Likasi, de Kipushi, de Lucha, de Kasumbalesa et de Lubumbashi même. Ainsi, ils plaident auprès des autorités du pays pour une solution à leur situation. Leur vœu est de rejoindre aussi vite que possible le centre de recyclage de Kasangoulou dans le Congo central. On écoute l'un d'eux, joint par Radio Okapi.
On a récupéré par rapport à ce que le ministre avait demandé, les policiers non payés dans le Haut-Katanga puissent se présenter pour être recyclés dans les 45 jours. Nous sommes arrivés à l'aéroport, on était à 350, on a pris une partie, nous qui sommes restés, ça fait plus de 3 mois nous sommes internés sur le centre de Kasapa. On ne sait rien, on n'arrive pas à comprendre, il y a des familles qui sont dehors, il y a des maisons qu'on doit payer, tout ça, c'est-à-dire on n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi nous avons ces cris d'alarme. 3 mois, quelle galère que nous vivons, nous qui sommes ici internés au centre de Kasapa. Mais nos familles qui sont dehors, nous sommes venus pour une résidence de 45 jours. Nous sommes tous internés sans rien faire pendant 3 mois. Nous ne sommes pas payés parce que je n'étais pas matriculé. On a travaillé dans la police. Ça fait plus de 10 ans. Je remercie les ministres d'avoir pris une bonne décision. Mais il y a une partie qui est à Kasangoulou. On attendait les deuxième ou troisième vol pour qu'on aille ensemble. Mais les amis, on les a enrôlés là-bas. On les a donné les matricules. Mais nous sommes ici. Il n'y a pas de mouvement. Nos familles vont vivre comment? Et actuellement, vivre comment? C'est ce qu'on te demande. Si les chefs d'État aussi peuvent aussi voir notre cas, nous sommes des Congolais comme tout Congolais. Des policiers comme les autres qui sont à Kasangoulou, comment nous serons abandonnés?
La voix de ce policier a été volontairement dénaturée pour des questions de sa sécurité et contacté par votre radio, le porte-parole de la police nationale, le colonel Piero Monamputu, a dit que la question de ces policiers était déjà inscrite à l'ordre du jour et que leur situation sera réglée dans les meilleurs délais. La Société congolaise pour l'état des droits estime que la réponse judiciaire et extrajudiciaire aux crimes commis dans la région du Kasaï en 2016-2017 n'est pas efficace. Pour son directeur général, cette réponse n'a produit aucun résultat concret. Maître Dominique Kambala regrette le manque de volonté de la hiérarchie militaire qui n'a pas voulu envoyer devant la justice les militaires cités dans les exactions commises au Kasaï. Maître Dominique Kambala, Congolo, le dit au micro de Joël Bofengo.
Lorsqu'on parle d'une réponse, on attend les résultats. Or, pour le moment, cette réponse n'a pas encore produit des résultats concrets. Il y a des personnes qui sont suspectées dans les crimes graves commis dans la région du Kasaï. Il y a une multitude de victimes qui attendent réparation. Jusque-là, sur les 17 cas prioritaires et emblématiques, il n'y a pas de jugement. Il n'y a ni condamnation, ni réparation. Il y a cette faiblesse dans la volonté de pouvoir déférer toutes ces personnes-là devant la justice. Les commissions rogatoires, on n'y répond pas. Jusque-là, on n'a pas encore interpellé un haut officier, sauf le colonel Mambouani. Ça fait maintenant à peu près 4 ans, pas de progrès significatif, pas d'avancée notoire. Et voilà, il y a désespoir. Et ce désespoir crée la frustration.
Bonne nouvelle pour les étudiants de l'université de Kikwit, faculté de médecine dans la province du Kwilu. Le gouverneur de cette province, Willy Ichundala Asang, a inauguré vendredi la clinique moderne de leur université. La clinique située dans l'enceinte de l'hôpital général de référence de Kikwit dans la commune de Lukulela est construite sur fonds propres du gouvernement provincial du Kwilu. Willy Ichundala a appelé les bénéficiaires à faire bon usage de ce bijou qui permettra à la province d'avoir des bons médecins. La cérémonie inaugurale s'est déroulée en présence des membres du gouvernement provincial, des membres du comité provincial de sécurité et bien d'autres personnalités. Irène Boma signe ce reportage.
De son passage dans la ville de Kikwit dans le cadre de la sensibilisation contre le coronavirus, le gouverneur du Kwilu, Willy Ichundala, a procédé vendredi à l'inauguration de la clinique universitaire de Kikwit. Cette clinique moderne est remise à ce jour compte au total 6 locaux et 2 blocs opératoires. Elle est construite sur fonds propres du gouvernement provincial du Kwilu à la hauteur de près de 130 000 dollars américains. Tout en appelant les bénéficiaires à en faire bon usage, Willy Itundala a indiqué que cet ouvrage est un bijou de la province pour permettre aux étudiants de l'université de Kikwit, faculté de médecine, de bien faire leur pratique professionnelle étant donné qu'il est bien équipé. Cela afin d'avoir de bons médecins dans la province, a-t-il précisé. Cette clinique, poursuit-il, ne servira non seulement à la pratique des étudiants, mais également à toute personne qui désire d'y être soignée et dans les bonnes conditions. Signalons que le chef de l'exécutif provincial du Kwilu avait aussi, lors de son passage à Bagata mercredi dernier, inauguré une école primaire et un centre de santé construit toujours sur fonds propres du gouvernement. Bandunduville, Irène Mboma, Radio Okapi.
Et en plus bref, le bulletin du comité multisectoriel de la lutte contre la pandémie de coronavirus en RDC du vendredi 17 juillet, publié hier samedi 18 juillet, renseigne que 65 nouvelles personnes sont sorties vendredi guéries des centres de traitement de coronavirus. Ceci ramène à 4313 le nombre de personnes guéries et depuis le début de la pandémie en mars dernier en RDC, le cumul des cas confirmés est de 8324 cas, dont 8323 cas confirmés et un cas probable. Il y a eu au total 193 décès, dont 192 cas confirmés et un cas probable. Allons à présent dans le Nord Kivu, le conflit opposant les exploitants artisanaux et les sociétés minières autour de la gestion du site minier de Rubaya persiste. C'est dans le territoire de Masisi. À travers une déclaration conjointe rendue publique vendredi, deux sociétés et trois coopératives minières accusent la coopérative des exploitants miniers artisanaux de Masisi, la Coopérama, d'opérer illégalement dans ce site de coltan et de cassiterite de Rubaya. Regroupée dans la plateforme dite Collectif des sociétés et coopératives minières du territoire de Masisi, la société agro-pastorale et minière du Kivu, la société minière de Bisunzu, SMB et trois autres coopératives estiment que l'agrément ministériel que brandit la Coopérama pour justifier sa présence dans la zone de Rubaya ne serait pas légal. Justin Ouema, le porte-parole de ce collectif, le dit au micro de Bernard Nyangi.
Regroupée dans la plateforme dite Collectif des sociétés et coopératives minières du territoire de Masisi, la société agro-pastorale et minière du Kivu Samikivu, la société minière de Bisunzu SMB et trois autres coopératives estiment que l'agrément ministériel que brandit la Coopérama pour justifier sa présence dans la zone de Rubaya ne serait pas légal. Justin Ouema et porte-parole de ce collectif.
Des pistes de solutions que nous avons proposées dans notre mémoire. C'est notamment le retrait de l'agrément à la coopérative Coopérama, parce que cet agrément-là n'a pas un soubassement réel. On devrait lui attribuer une zone d'exploitation artisanale, mais curieusement, cette coopérative se retrouve dans des zones attribuées aux détenteurs de titres miniers et déjà attribuées à d'autres coopératives.
Contactez le vice-président de la Coopérama, promet de réagir à la question après les conclusions de la réunion de l'équipe dirigeante de son association. Rappelons que malgré plusieurs tentatives de réconciliation, le conflit, parfois sanglant, perdure depuis plusieurs années déjà dans ce carré minier de Rubaya. Ces mésententes, particulièrement entre les sociétés SMB Sakima et les creuseurs artisanaux membres de la Coopérama, ont déjà causé plusieurs morts et des blessés dans la zone. Goma, Bernard Nyangi, Radio Okapi.
Et contacté par votre radio, le vice-président de la Coopérama promet de réagir à la question après les conclusions de la réunion de l'équipe dirigeante de son association. Rappelons que malgré plusieurs tentatives de réconciliation, le conflit, parfois sanglant, perdure depuis plusieurs années déjà dans ce carré minier de Rubaya. Ces mésententes, particulièrement entre les sociétés SMB, Sakima et les creuseurs artisanaux, membres de la Coopérama ont déjà causé plusieurs morts et des blessés dans la zone. L'invité de ce journal matin sur Radio Okapi est Deli Sesanga. Il est député national élu de Luisa. Il est l'une des 13 personnalités politiques et de la société civile qui envisagent un consensus sur les réformes électorales en RDC. Il s'entretient avec Billy Yvan Lutumba sur les motivations et les objectifs de cette démarche. Suivez.
Deli Sesanga, bonjour.
Bonjour.
Vous venez de lancer une initiative aujourd'hui qui va dans le sens de trouver un consensus au niveau du pays. Quelles sont les motivations qui vous poussent à vous engager sur cette voie?
D'abord parce que le pays est divisé et que le cadre traditionnel des discussions pour arriver à pareil consensus sont aujourd'hui en division et qu'il faut, pour qu'une démocratie survive, qu'il y ait des sujets qui transcendent les clivages politiques, font le consensus et représentent et sont le reflet des valeurs communes que nous représentons. Les élections font partie de ces combats-là pour lesquels il nous faut un consensus dans le pays. Et donc, pour ces réformes électorales, nous avons pensé que les acteurs politiques, aussi bien de l'opposition que de la majorité et de la société civile, ensemble, nous pouvions promouvoir la possibilité d'une décision ou d'une option sur les réformes électorales afin que les élections de 2023 puissent se tenir dans l'apaisement et avec une dose d'acceptation et de crédibilité nécessaire pour tous les acteurs.
Comment entendez-vous mener cette démarche pour arriver au résultat escompté?
D'abord, nous avons une offre des réformes que nous voulons voir promouvoir au niveau de la loi électorale, de la révision de la Constitution, de la loi portant organisation de la CENI. Et ensuite, nous pensons pouvoir en discuter avec tous les bords politiques pour que nous puissions avoir la même compréhension des choses. Et ma foi, lorsque tout le monde se met ensemble sur ces questions, nous pouvons dégager des options qui permettent à la fois de bien réformer et de bien anticiper aujourd'hui par rapport aux échéances de 2023. Parce qu'il y a des attentes et les manifestations qui ont été organisées à travers le pays ces derniers temps ont démontré une chose qui tout le monde n'était pas d'accord et donc faut mettre les acteurs d'accord. Et ceux qui sont dans les institutions montrent également que dans le cadre de celles-ci, il est très difficile de trouver des solutions. Et donc il faut combiner les intelligences pour que nos divisions soient transcendées et que nous ayons une compréhension commune de ces enjeux. Et à partir de là, il sera possible d'envisager une élection qui soit véritablement apaisée et crédible en 2023.
Quels sont les moyens dont vous disposez pour y arriver?
D'abord la volonté, à elle seule ne suffit pas. Les idées ensuite et l'engagement que tous prenons dans cette action pour aller rencontrer les uns les autres. Et les moyens, c'est aussi cet appel qui est lancé à tous les acteurs politiques, à la population pour soutenir cette initiative en vue de parvenir à une solution. Je ne pense pas que les acteurs politiques que nous sommes soyons habité par l'idée que pour trouver des solutions, il faut que le sang coule à flot avant que nous puissions nous entendre. Il est encore temps que nous puissions trouver une solution plutôt pacifique, que nous puissions trouver une solution dans la compréhension réciproque avec l'idée du compromis et l'idée de la défense des valeurs que nous défendons. Le combat n'est pas celui des personnes, le combat est celui des principes. Et il faut que nous nous mettions d'accord sur ces principes.
Dans un contexte où, même en dehors de la coalition, dans la classe politique, chaque bord garde des positions tranchées, comment comptez-vous réussir?
Nous pensons que les positions qui sont extrêmes des uns des autres pourront être à un moment donné ramené à la raison. La radicalité ne peut être en elle-même une position. L'extrémisme n'a jamais construit.
Il va se poser les problèmes de modération. Sur qui comptez-vous?
On n'en est pas encore là. Aujourd'hui, c'est faire accepter déjà l'idée qu'un consensus est nécessaire, que les réformes doivent pouvoir être menées et que le contenu de ces réformes doit être connu. Il n'est pas normal que parce que nous allons aux élections, le pays soit immobilisé 2 ans avant les élections et 2 ans après les élections. Donc finalement, le pays ne travaille pas pour la population, il travaille pour ses politiques. Et donc pour ramener la politique au centre d'intérêt des préoccupations de nos populations, il faut trouver ce consensus.
Ne craignez-vous pas qu'on puisse penser à ce que vous remettez en cause l'ordre institutionnel actuel?
Aucunement. Les propositions, les discussions sont faites de manière citoyenne. Elles vont être portées avec force par les élus que nous sommes, par les autres. Et si nous nous mettons d'accord, il n'y aura pas de divergence. Donc concourir à ce qu'émerge un consensus ne doit pas être considéré comme quelque chose qui remet en cause les institutions.
Et qui vous soutient?
Personne. Nous tous, nous sommes là engagés, chacun ayant accepté de se détacher de son parti, de son regroupement, parce que au-delà de nos partis politiques, il n'y a rien qui ait plus de valeur et de sens que le Congo. Et donc, c'est nous-mêmes qui poussons cette initiative.
Pour aboutir enfin à un parti politique ou à une plateforme politique?
Pas nécessairement, et ce n'est pas en tout cas dans l'objectif. Aujourd'hui, nous avons un objectif qui est ciblé, c'est arriver à sortir de cette situation pour quelque chose qui puisse amener le pays aux élections qui soient apaisées. Nous sommes une initiative conduite par des personnalités en vue de résoudre un problème important qui se pose à la nation.
Deli Sesanga, merci.
C'est moi qui vous remercie.
Le député national Deli Sesanga qui répondait ainsi aux questions de Billy Yvan Lutumba. Et c'est la fin de ce journal mis en onde par Alain Bidoya, Alain Irung l'a coordonné et Julien Yamoni l'a supervisé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Vous pouvez réécouter ce journal sur www.radiookapi.net.